France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. C'est une information de l'agence de presse Reuters. 14 djihadistes français auraient été remis à l'Irak par les forces démocratiques syriennes. On ignore quand exactement ce transfert de détenus a eu lieu. Il intervient alors que les États-Unis et les forces kurdes souhaitent toujours que les pays européens rapatrient leurs ressortissants engagés auprès du groupe État islamique. Aujourd'hui, le président irakien Barham Saleh est en visite à Paris. Il rencontrera Emmanuel Macron. L'aide est toujours bloquée aux entrées du Venezuela après un week-end de tensions. Aujourd'hui, lundi, à Bogota, en Colombie, le groupe de Lima doit se réunir autour du vice-président des États-Unis, Mike Pence. Seront également présents les représentants de 14 pays sud-américains ainsi que l'opposant vénézuélien Juan Guaido. Les Cubains, eux, votaient hier pour une nouvelle constitution, un référendum à valeur de test pour le gouvernement socialiste qui est déterminé à défendre son plus proche allié, le Venezuela de Nicolas Maduro. Les premiers résultats de ce référendum sur la nouvelle constitution seront dévoilés ce lundi soir. La réforme reconnaît notamment le marché, la propriété privée et les investissements étrangers comme étant nécessaires pour relancer la croissance de ce pays miné par les pénuries. La présidentielle au Sénégal connaîtra-t-elle un second tour? En tout cas, hier, les électeurs ont voté pour départager 72 candidats lors du premier tour. Le président sortant, Macky Sall, revendique déjà la victoire, ce que conteste l'opposition. Et puis il se satisfait de la négociation et prolonge la trêve dans la guerre commerciale avec Pékin. Donald Trump reporte l'instauration de nouvelles taxes. Il parle de progrès substantiels dans les négociations commerciales. Enfin, les Oscars, bouquet final de la saison des prix cinématographiques à Hollywood, ils ont eu lieu cette nuit. Et la 91e édition a consacré Green Book, Sur les routes du Sud, un film de Peter Farrelly, meilleur film de ce palmarès. Il raconte l'histoire d'un pianiste noir dans les années 60, analyse dans le journal de 6h30.
Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne. Je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et vous retrouvez Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Dans un roman écrit comme un conte, Sophie van der Linden évoque notre relation à l'Orient, ou plus exactement, notre vision occidentale d'un Orient fantasmé. Et le roman a beau se dérouler au début du 19e siècle, le sujet est toujours d'actualité. Après Constantinople est le titre de ce roman édité par Gallimard dans la collection Signes. L'auteur est avec nous ce matin et en deuxième partie, d'autres coups de cœur littéraires, entre autres partagés avec le magazine Transfuge, donc une occasion de retrouver Oriane Jeancourt. Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours à 6h du matin si vous êtes lève-tôt ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Alain Joubert.
Le réveil culturel, lundi. Livre.
Bonjour Sophie van der Linden.
Bonjour Toufik Hakem.
Votre roman Après Constantinople est écrit comme un conte, je le disais en préambule, mais alors c'est vraiment un conte qui nous invite à se méfier des contes, ou du moins tous ces contes qui ont façonné notre vision de l'Orient. Votre roman met en scène, sur un cheval d'ailleurs, non pas un prince ou un chef guerrier, mais un peintre du 18e, nourri depuis son enfance de contes orientaux, habité donc par un imaginaire oriental, on pourrait le dire, et qui va être confronté à l'Orient, le vrai, celui qui se niche quelque part dans une des montagnes de l'Empire ottoman. Alors, la bonne idée de votre roman, c'est que ce peintre n'est pas orientaliste. Du moins, au début, il n'est pas du tout orientaliste.
Non, il est animé d'une idée de l'Orient, en fait, façonné par ses lectures. Lorsqu'il arrive en Orient et au Caire singulièrement, il est extrêmement déçu de la réalité abrupte de cet Orient, très loin de ses images.
Et l'orientalisme a beau être à la mode, lui c'est vraiment un peintre naturaliste, hein, qui peint plutôt des scènes historiques ou de la vie courante, restituant un peu la nature, avec réalisme plutôt.
Oui, un réalisme velouté, animé par son goût des tissus, des textiles, mais aussi de la chair humaine, de la chair des femmes, qu'il peint comme des nacres.
Oh, et là, on arrive à vraiment au point de où va se fixer la dramaturgie de ce conte, de cette épopée, puisque effectivement, ce peintre se passionne pour les fustanelles.
Alors les fustanelles, tout le monde les a en tête sans en connaître forcément le nom. Ce sont ces jupons de coton extrêmement légers que portaient serviteurs de l'Empire ottoman, les bachibouzouks notamment, ces jupons à 1000 plis qu'on retrouve aussi chez les soldats grecs et qui lui résistent.
Il n'arrive pas à les reproduire.
Il y a un blanc qui ne convient pas, en tout cas pour la peinture qu'il a avec lui. Il y a des ombres qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ça devient une obsession parmi d'autres. Et c'est ce qui va le faire quitter le voyage, la délégation avec laquelle il était en cours, remonter par des voies incertaines, une chevauchée qui le mène de Constantinople aux confins de l'Empire ottoman dans les Balkans, et on l'attrape effectivement au début du récit dans cette chevauchée.
Et on se dit même pourquoi il n'est pas resté à Paris alors qu'il avait une fiancée bien placée là. Fiancée, puisque c'est la fille d'un grand collectionneur, qu'elle est jolie, qui pouvait avoir une carrière, et ben non, il est appelé par ce besoin de se procurer ce tissu, et le voilà parti avec vous, Sophie van der Linden, dans une aventure. Il va tout vivre, c'est un voyage risqué avec tant de noyades, de bastonnades, tant de coups de sabre pour des malentendus linguistiques ou culturels, dites-vous dans votre récit, il va enjamber des balcons, braver des périls, et tout ça pour se retrouver. Et c'est ça la force de votre roman, parce que vous parlez de l'orientalisme, mais vous ne versez jamais dans l'orientalisme. Donc on n'a pas la description d'un Orient, Constantinople ou le Caire et Bagdad. Non, on est quelque part, au milieu de nulle part, dans des montagnes. D'ailleurs, s'il fallait nous situer ces montagnes, j'ai essayé à partir de vos indications, c'est-à-dire à partir de Salonique, d'essayer de trouver où se déroule ce roman. Je ne sais pas, c'est où.
Je serais bien en peine de vous le dire moi-même, mais enfin, on est quelque part dans le sud de l'Albanie, dans ces régions non contrôlées à l'époque, pleines de rebelles. Et effectivement, on est dans un environnement finalement assez rude, avec beaucoup de pierres, dans un environnement très minéral, que ce soit la montagne ou cette fabrique, d'une architecture relativement étrange qui perturbe beaucoup ce peintre. Et finalement, après tant d'événements, il va être prisonnier en quelque sorte de ce lieu, et sur des jours, plusieurs jours, il va être confronté à la régente de ce domaine, puisqu'il est dans une fabrique, ouais, une fabrique de fustanelles d'exception. Et alors un autre rythme se met en place, puisque c'est le rythme de leur rencontre quotidienne et de leur conversation.
Et tout se joue sur justement ce face-à-face, parce que lui, il vient avec des idées de ce qu'il a pu apprendre sur l'Orient, hein, et il va être confronté à un autre regard venu d'Orient, mais cet autre regard, il est assez particulier. On peut le dire, ça aussi, Sophie van der Linden. S'il fallait parler de ce personnage, la sultane ou la régente, déjà, on apprend au fur et à mesure du récit qu'elle est noire, ce qui n'est pas un détail.
Oui, et elle est noire, ce qui est assez invraisemblable pour l'époque, qu'une femme noire dirige une fabrique, dirige des ouvriers. Il est confronté à cette femme qui le perturbe énormément, parce que elle a ce rôle inattendu, et puis en même temps elle dégage une présence qui le trouble jusque dans ses rêves. Alors ce peintre, je dois dire quand même que je l'ai façonné, ce personnage, à partir non pas d'une figure de peintre réel, mais à partir des peintures de Jean-Léon Gérôme, qui est ce peintre qu'on pourrait situer entre l'art pompier et une sorte de réalisme, effectivement, qui a beaucoup figuré, alors des fustanelles d'abord, lors de son voyage au Caire, mais aussi beaucoup de femmes au harem, au hammam, etc., et qui brille par l'absence, justement, de la femme noire qui est toujours habillée, qui est servante. Et il m'intéressait de le confronter à ce personnage. C'est une forme de tension entre une vision de l'Orient et une autre, entre une place de la femme et une vision qu'on peut en avoir, et bien entendu aussi ce regard sur la femme noire.
Et puis bien sûr, le thème de votre roman, Après Constantinople, pour rappeler le titre, c'est aussi... qu'est-ce qu'on connaît de l'Orient et quelles sont les idées préconçues qu'on a de cette partie du monde ?
Il m'intéressait assez, en effet, de faire tomber quelques certitudes sans en donner d'autres.
Ce qui le rend, ce qui le rend aussi d'actualité, votre roman ?
Bien sûr que la vision qu'on a aujourd'hui de l'Orient, mais plus singulièrement de l'islam, le rapport qu'on en a...
Pour donner juste un exemple, par exemple, ce peintre, il est persuadé que la peinture islamique bannit toute forme de représentation humaine, alors que vous expliquez que les choses sont plus complexes que ça.
Eh oui, il y a des figurations humaines dans l'art islamique, dans les miniatures persanes. Cet interdit n'est pas si évident que ça. Il y a l'interdit, bien sûr, ultime de la représentation du prophète, mais... Au-delà de ça, ce n'est qu'une question d'interprétation et des courants de l'islam, des artistes de l'islam ont donné leur propre interprétation à ces supposés interdits.
De la même manière, ce que la régente, ce que la sultane va demander qu'en peinture, parce qu'il va y avoir un marché, hein, c'est-à-dire si vous voulez avoir de la fustanelle, si vous voulez quitter ce domaine, ok, faites-nous quelques peintures. Elle-même, elle a aussi une vision qui a l'air plus conforme à la réalité de ce qu'est l'art occidental de l'époque.
Oui, elle est relativement informée, puisqu'on saura qu'elle a vécu près du sultan, à Constantinople, et qu'elle a lu, et qu'elle a aussi croisé tous ces voyageurs et ces fameux orientalistes, et qu'elle les a observés avec un certain détachement et peut-être de l'amusement lorsqu'ils se sont rendus dans ces territoires, que ce soit à Constantinople ou aussi dans les Balkans, auprès du fameux Ali Pacha de Tepelena ou de Janina. Et elle a observé cela avec acuité et distance, sûrement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Notre manière de parler de l'orientalisme, de la peinture orientaliste, en conjuguant ce phénomène à toutes les époques, y compris à aujourd'hui, c'est l'objet du roman de mon invité ce matin, Sophie van der Linden, Après Constantinople. Et au fur et à mesure que votre récit avance, avec cette tension, avec cette rencontre entre le peintre français et cette sultane noire, quelque part perdu dans cette fabrique de fustanelles dans les montagnes balkaniques, près de l'Albanie, le sud de l'Albanie, puisque vous avez donné cette précision. Il y a, à la fin de chaque chapitre, la description d'un tableau de ce peintre. Et on le voit plus ou moins arriver à représenter les janissaires, à représenter la sultane, c'est-à-dire à faire une peinture d'Orient qui n'est pas du tout exotique, qui n'a absolument rien à voir avec l'orientalisme en réalité.
Oui, Alors, ces tableaux sont laissés à l'interprétation finalement du lecteur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un catalogue, des extraits d'un catalogue postérieur à cette histoire? Est-ce que c'est un regard alors très très descriptif et factuel.
Ouais. Mais pour vous, c'est une manière aussi de parler de sa, de son évolution, de l'évolution de son regard, aussi bien l'évolution d'ailleurs de son regard que de son travail.
Oui, parce que il est, alors c'est pas du tout évident finalement d'avoir pour personnage principal d'un roman un personnage relativement antipathique par certains, enfin dans nombre de ses aspects. Mais c'est vrai que ce personnage
enfin,
évolue.
Il est arrogant comme un touriste français à l'étranger, mais il a des côtés sympathiques aussi.
C'est ça. Mais oui, ces peintures, leur à la fois leur description, mais aussi leur exécution. Relativement factuel et simple parce qu'il est aussi avec des outils très simples, donc il y a des pastels, des choses très oui, dans une forme de minimalisme auquel il n'est pas habitué. Bien entendu, ces peintures sont aussi une traduction de cette évolution de ce personnage au contact d'un monde bien plus singulier qu'il ne l'attendait.
Et pourquoi avoir décidé d'écrire ce roman, ce récit, à la manière d'un conte oriental, Sophie van der Linden?
Je ne sais pas si c'est un conte oriental. C'est à la manière d'un conte. Est-il oriental? Je ne sais pas. Son sujet l'est, bien entendu.
C'est un peu Scheherazade, cette sultane. On attend nuit après nuit ce qui va arriver le lendemain, même si ce n'est pas elle la prisonnière dans votre roman.
Oui,
on l'a compris.
Je pense aussi que je suis nourrie par les contes, les fameux récits libertins du 18e. Il y a quelque chose aussi de vivant de nom, point de lendemain, dans ce qui me nourrit, dans ce choix effectivement du conte, puisque les personnages ne portent pas de nom, de patronyme, ils sont désignés par leur fonction ou leur statut. Mais oui, Orhan Pamuk parle quand il dit je fais des romans sur des sujets orientaux avec un style du roman occidental du 19e siècle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette construction aussi dans la forme du texte d'une rencontre là aussi entre Occident et Orient, bien sûr.
Et quelle est votre histoire avec l'Orient ou le monde arabo-musulman, comme on dit plus volontiers aujourd'hui, Sophie van der Linden?
Bien, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je crois qu'il y a dans notre société tellement de certitudes et de préjugés qu'il me donne envie d'aller y voir de plus près, tout simplement. Je suis pas du tout une spécialiste de l'Orient. J'ai des lectures comme d'autres, fait des voyages comme d'autres.
Où ça?
Forcément en Albanie, mais un peu plus loin aussi, en Asie centrale, sur d'autres racines et d'autres entremêlements de l'islam avec d'autres cultures.
Et questionnons le peintre qui est en vous, le peintre de votre roman qui est en vous. Quelles sont les découvertes? À quel point ces voyages ont remis en question votre vision de l'Orient?
Ah, j'espère ne pas y être allée en touriste que vous décriviez. Et...
Moi, je n'ai pas dit qu'en touriste, j'ai dit est-ce que ça a changé le fait de découvrir sur place
Bien
la
sûr,
culture
ça, enrichit, ouais. ça permet de,
est-ce que
de
ça,
comprendre
ça,
les
ça
liens.
Ça a remis en cause la vision que vous aviez avant, comme pour revenir à votre roman.
Remise en cause, peut-être pas, mais enrichir, à l'évidence, une vision, des liens. Que l'on peut partager et puis aussi de l'importance de cette culture. C'est vrai qu'on parle assez peu finalement de l'islam comme une culture et c'est aussi cette découverte-là que j'en retiens de ces voyages.
Après Constantinople, c'est édité par Gallimard dans la collection Signe Ivoire. C'est avec nous Sophie van der Linden.
Istanbul, yeah. Constantinople, c'est à Istanbul où
Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul ou Constantinople que je l'ai trouvé. Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul, le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle que mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule. Un soir, sous le beau ciel d'Istanbul.
Istanbul, 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 Istanbul.
Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul. Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul. Au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments, mais en riant elle me dit: comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul. Constantinople que nous avons pris, le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul.
Après Constantinople, le roman de Sophie van der Linden fait partie des coups de cœur partagés avec notre amie Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour Auriane.
Bonjour Toufik.
Alors, votre lecture, votre point de vue, vous qui êtes présente depuis le début de l'émission.
Mais oui, qui vous ai écouté avec religiosité, comme toujours. Écoutez, moi je trouve ça très intéressant, cette curiosité des écrivains contemporains pour l'orientalisme. Évidemment, Mathias Sénard a largement ouvert la porte et que ça continue comme ça chez les Français, ça me plaît beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la fausse candeur de votre conte, la fausse candeur des contes en règle générale, que la littérature française, un peu en ce mois de janvier, retrouve et qui permet évidemment, quand on pose le regard comme ça sur la naïveté, hein, il faut bien le dire, orientaliste d'une part des intellectuels et des artistes du 19e siècle, eh bien le conte fait saillir cette naïveté et fait saillir aussi la possible métamorphose de l'individu au gré de son voyage. Et c'est cette aventure-là que vous racontez qui est évidemment une aventure intérieure autant qu'une aventure romanesque. Et je trouve que vous faites ça avec un vrai talent narratif et vous faites vraiment voir ça peut-être mieux que dans un roman plus réaliste, plus politique tel qu'on pourrait le lire.
C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs cette manière d'aborder le sujet.
Oui, le roman est aussi le lieu de l'ambiguïté, de l'équivoque, dans ces choix que j'ai faits d'être dans un univers flottant qui reste, même s'il est relativement vraisemblable, reste imaginaire. Et c'est vrai que ce choix-là permet de ne pas figer et de laisser ouvertes toutes les interrogations.
Revenons au choix de Transfuge. Outre Après Constantinople, donc le roman de Sophie van der Linden, quels sont vos coups de cœur cette année, en ce début d'année, pardon, Auriane Jeancourt, en littérature?
En littérature, évidemment, on a beaucoup de choses, mais dans ce numéro de février, donc, qui paraît là, nous faisons un grand entretien avec Charles Dancy, qui présente ce dont il a l'art et la manière, une forme de fiction-essai-essai-fiction, qui s'intitule « Chambord des songes ». Vous l'aurez compris, c'est sur le château français qui fête ses 500 ans, et ce n'est pas par passion des châteaux ou des rois que Charles Dancy est allé écrire sur Chambord, mais pour nous interroger, pour s'interroger sur ce symbole du pouvoir et donc sur la mécanique du pouvoir qu'a incarné Chambord et qu'incarne finalement tous les lieux de pouvoir. Donc il a, avec toujours cette légèreté et cette grâce qui est la sienne, il nous fait passer de François Ier, le fondateur, le constructeur de Chambord, à Donald Trump, en passant par Chirac, Sarkozy, enfin toujours, il nous interpelle sur l'imaginaire du pouvoir dont Chambord serait évidemment évidemment un des lieux et un des symboles.
Chambord de Charles Dancing qu'on retrouve, vous le savez, ça oriente tous les dimanches à 15h sur France Culture pour son émission Personnage en personne. Mmh. On reste dans les rayons livres et on passe aux essais, Oriane Jeancourt.
Absolument, et alors on suit, cette fois on a rencontré Siri Hustvedt, c'est notre deuxième événement de littérature de février. On aime beaucoup Siri Hustvedt à Transfuge, on l'a mis en couverture quand elle publiait son dernier très très beau roman. Et là, elle poursuit ses essais. Et elle, vous savez, sa spécialité dans ses derniers essais, c'est de s'interroger sur le féminisme et de s'interroger sur la manière, et ça va vous intéresser évidemment, Sophie van der Linden, dont s'est construit l'imaginaire patriarcal. Et donc, elle fait des recherches, elle est très scientifique. Siri Hustvedt, elle mêle souvent littérature, sociologie et connaissances de la science, notamment de la psychiatrie. Et donc, elle va aller chercher comment est-ce que s'est construit dans l'imaginaire scientifique certaines idées préconçues, comme celle qui veut que les femmes soient moins scientifiques que les hommes, que les petites filles soient moins bonnes en mathématiques que les hommes, que les hommes seraient totalement mus par la testostérone et donc plus sensibles à la violence que les femmes. Eh bien, elle fait de véritables recherches pour remettre ça en cause, et elle le fait avec un talent indéniable.
Transfuge, c'est pas seulement de la littérature et des essais, mais c'est aussi toute la culture, le cinéma et le théâtre compris. On commence par le théâtre. Votre coup de cœur théâtre pour ce mois de février, Oriane Jeancourt.
Oui, nous sommes allés rencontrer Falk Richter. Alors, vous savez, Falk Richter, c'est un auteur et dramaturge allemand qui a fait pas mal parler de lui ces 10-15 dernières années avec des pièces extrêmement contemporaines sur le monde d'aujourd'hui, sur la jeunesse, sur le désœuvrement de la jeunesse européenne, sur la finance. Il avait fait une pièce qui s'appelle Trust. Et le revoilà sur l'Europe avec I Am Europe, qui est présenté au TNS et puis qui va faire le tour de l'Europe et sera présenté à l'Odéon en septembre. Bon, évidemment, cette année, parler d'Europe, c'est un sujet on ne peut plus sensible avec les élections. Et donc, lui, il nous interroge pour nous montrer ce qu'est la jeunesse européenne. Il a réuni 8 performeurs de différentes nationalités. Il y a des Belges, des Français, des Portugais, des ex-Yougoslaves, donc une Croate, qui nous racontent leur histoire, comment est-ce qu'ils se sont forgés, est-ce qu'ils se sentent d'une identité particulière. Ils sont souvent eux-mêmes enfants de l'immigration et ils construisent ce spectacle qui est extraordinaire. Ils sont à la fois danseurs, chanteurs et gens de théâtre. Et par ces différents spectacles, ils nous montrent ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire...
C'est intéressant. Oui. Et cinéma pour terminer.
Ah oui, alors ça c'est notre couverture. C'est Jazz Uncle, Les Éternels. L'équipe cinéma et moi-même, nous sommes très férus de Jazz Uncle. Il nous a donné un entretien exceptionnel sur le film et sur tout son travail.
Merci Oriane Jeancourt. Et puisqu'on est à partager nos coups de cœur, s'il fallait terminer avec vous, Sophie van der Linden, est-ce qu'un spectacle, un disque, un livre, un film vous a marqué dernièrement?
Alors, je me tiens un petit peu à l'écart de cette rentrée littéraire de janvier, puisque j'essaye d'écrire et donc j'essaye de me préserver une bulle, mais je vais quand même au cinéma, le dernier coup de cœur, L'Homme fidèle. Louis Garrel, j'ai beaucoup aimé cette manière de s'inscrire dans la nouvelle vague et en même temps d'en échapper complètement.
Merci Sophie van der Linden, merci Oriane Jeancourt d'être passée et bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, analyser, décrypter, les matins de France Culture, Florian Delorme.
Depuis des mois, la France est le théâtre de nombreuses violences autour des manifestations de gilets jaunes, sur les réseaux sociaux, avec des attaques tout azimut à l'égard des juifs, des journalistes ou encore de nos représentants politiques. Alors les digues ont-elles sauté? Peut-on désormais haïr à visage découvert? Et comment le comprendre? Sommes-nous entrés dans le temps de la haine? On se posera la question lundi dans les matins de France Culture.
Les matins de France Culture, ce lundi dès 7h et sur franceculture.fr. En partenariat avec le nouveau magazine littéraire. Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Kervran.
De l'invention du bal public aux free parties dans les bois, en passant par les clubs selects de Montparnasse et les discothèques géantes avec laser, fumigène et boule à facettes, cette semaine, LSD vous entraîne sur le dance floor pour entrer dans la transe de la danse. Alors fermez les yeux, levez les bras bien haut et commencez à danser.
Une histoire des dance floors, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly remporte l'Oscar du meilleur film. Ce long métrage raconte la tournée d'un pianiste noir dans les années 60. Plus largement, la diversité était à l'honneur de ce cru 2019 des Oscars. Analyse dans un instant. Nous irons ensuite à Cuba après le référendum sur la nouvelle constitution. Le oui devrait sans énorme surprise l'emporter. Et puis, quelle mobilisation encore en France contre la réforme du lycée. Les vacances scolaires n'y changent rien. Des professeurs continuent à mettre des 20 sur 20 pour brouiller le processus d'orientation. Rencontre à suivre. Le groupe Queen a ouvert cette nuit la 91e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Fin de la saison des prix cinématographiques et nous connaissons le palmarès complet depuis moins d'une heure. Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly a donc emporté 3 Oscars, dont la prestigieuse statuette du meilleur film. C'est l'histoire d'une amitié entre un pianiste noir et son chauffeur blanc dans les années 60. Il n'y a évidemment pas que ce film-là qui a été récompensé cette nuit. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Cécile, les Oscars ont misé sur la diversité.
Oui, c'est ce qui a plané durant toute la cérémonie au Dolby Theater et ce qui ressort des prix attribués par un jury dont, il faut le savoir, un quart avait été renouvelé cette année par l'Académie des Oscars, justement dans le but de faire plus de place à la diversité. C'est Regina King, l'actrice noire américaine, qui a ouvert le bal en recevant l'Oscar du meilleur rôle féminin pour son interprétation d'une mère courage dans Si Beale Street pouvait parler à Barry Jenkins. Puis Spike Lee a reçu le premier Oscar de sa longue carrière pour le meilleur scénario adapté à son film Black Landsman, Comment j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Le cinéaste militant de la cause noire américaine depuis les années 80, connu notamment pour Malcolm X, a sauté dans les bras de l'acteur Samuel Lee Jackson qui lui remettait son prix avant de lancer que 2019 était le 400e anniversaire de l'arrivée du premier contingent d'esclaves noirs aux États-Unis. Rami Malek a ensuite reçu lui l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le biopic à la gloire de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, un Oscar qu'il a voulu lui aussi placer dans la défense des minorités. Je pense au petit garçon que j'étais, a-t-il déclaré, fils d'immigrés égyptiens nés aux États-Unis. Et je me dis qu'avec ce film qui parle de la réussite d'un immigré et d'un homosexuel, mon histoire à moi est en train de s'écrire. Ça montre que c'est encore possible d'être immigré et de réussir dans ce pays. Et le refrain a continué encore avec la récompense du Mexicain Alfonso Cuarón qui a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film Roma, pour lequel il a aussi reçu l'Oscar du meilleur scénario. Cet Oscar est pour les 70 millions de travailleurs autochtones dont les droits sont bafoués aujourd'hui dans le monde. Vive le Mexique, a lancé le réalisateur, avant de laisser donc la place à toute l'équipe de Green Book de Peter Farrelly. Un film sur l'amour, la tendresse, en dépit de toutes les différences, a lancé le réalisateur, brandissant son trophée. Un palmarès très noir, américain et immigré compatible donc cette année. Mais déjà, sachez-le, la presse et Twitter commencent à regretter l'absence des femmes.
Merci beaucoup Cécile de Kervas-Doué pour ces précisions matinales. L'opposant vénézuélien Juan Guaido se rend aujourd'hui en Colombie, à Bogota. Il veut y demander l'intensification de la pression internationale sur le régime du président élu Nicolas Maduro. Ce week-end, l'aide humanitaire est restée bloquée aux frontières du pays. À Bogota, Juan Guaido retrouvera les représentants du groupe de Lima, composé de 14 nations du continent, majoritairement hostiles à Maduro. Le vice-président américain Mike Pence sera présent également aujourd'hui. Le camp du président sénégalais Macky Sall revendique la victoire après le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Les résultats officiels ne sont pourtant pas attendus avant plusieurs jours et l'opposition affirme déjà qu'il y aura un second tour à cette présidentielle. L'attente aussi à Cuba où l'on votait hier sur la nouvelle constitution. Un référendum était organisé dans le pays. Le projet maintient le rôle du Parti communiste en tant que force qui conduit le pays. Mais le document reconnaît aussi l'existence du secteur privé qui a fleuri ces 10 dernières années. Il consacre l'importance des investissements étrangers et ouvre également la voie au mariage homosexuel à Cuba. Le oui à ce référendum ne devrait pas faire de doute, Romane Frachon.
Deux enfants, soi-disant volontaires, veillent au grain. Debout de chaque côté de l'urne, en uniforme, les yeux fatigués. D'autres distribuent les bulletins de vote. Une question, ratifiez-vous la nouvelle constitution de la République ? Deux réponses possibles, oui ou non. À en croire les citoyens, ils ont tous coché la première case. Vilma González est vétérinaire, elle ne conçoit même pas que l'on puisse faire campagne pour le non.
Ici, nous ne pouvons pas faire la propagande du non, on fait la propagande du oui, il le faut, point. Si vous vendez une boisson, pour la commercialiser, vous allez faire une propagande pour le vendre, non ? D'autant que le oui nous représente tous, c'est la continuité de la révolution, de tout ce que nous a légué fidèles. Celui qui vote non, bah c'est son problème.
Certains ne prennent même pas la peine de se cacher derrière le rideau, ils cochent directement oui et s'assurent que quelqu'un les a vus. Selon plusieurs experts, pourtant, au moins 30% ont voté non. Mercedes Albuquerque semble être la seule à reconnaître leur voix.
Si un article ne leur plaît pas, ils peuvent dire non. Par exemple, le droit au mariage entre deux personnes, ça a été retiré. Le machisme est encore très ancré. On ne peut pas changer les conceptions du jour au lendemain.
Mais à moins d'une grande surprise, le oui a déjà gagné.
Les résultats seront connus ce soir. En Suisse aussi, il est question de vote, sauf qu'aujourd'hui, c'est un faux vote qui est organisé. Un bug bounty, comme disent les pirates, les hackers, comprenez une prime au bug. Une récompense est offerte à tous ceux qui vont réussir à détourner le système de ce vote électronique. 132 000 euros sont prévus. Les hackers, les pirates ont un mois pour manipuler les suffrages. L'idée est de s'en servir ensuite pour améliorer le système de vote électronique avant de le déployer en Suisse, Jérémy Lanche.
Le concours de hacking ne démarre qu'aujourd'hui, mais déjà le code source du système de vote développé par la Poste a fuité sur Internet. Alexis Roussel est membre et ancien président du Parti Pirate Suisse.
On a des experts internationaux qui ont commencé à regarder et ils font des commentaires par rapport à ce code-là. Et puis on se rend compte que la qualité du code, ça préjuge pas de la sécurité du code, mais que la qualité du code n'a pas été faite à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un logiciel de vote électronique.
Autre problème, encore plus préoccupant pour Alexis Roussel, c'est la centralisation du vote par Internet. Aujourd'hui, plusieurs systèmes existent en Suisse, mais à cause de leur coût élevé, celui testé par la Poste pourrait bien devenir le seul à être utilisé.
Les gens doivent accepter que le code source reste la propriété de la Poste et de l'entreprise qui l'a fabriqué. On a un problème vraiment idéologique, politique très très fort, c'est est-ce qu'on peut accepter qu'un système de vote électronique soit la propriété d'une entreprise privée.
Il reste quand même des garde-fous. En Suisse, on vote tout le temps, sur tous les sujets et sur tous les supports. Difficile dans ces conditions de modifier complètement les résultats d'un scrutin.
Le vote par Internet en Suisse est vraiment mélangé avec les différents canaux. C'est pas un seul et unique canal de vote. Ce qui fait que quand vous avez 20% de la population qui vote par Internet, 70% par la poste et puis 10% qui viennent à l'urne, mais en fait, vous pouvez comparer les résultats et voir qu'il n'y a pas de différence entre les différents canaux.
Les hackers ont jusqu'au 24 mars pour tester le dispositif. Un comité d'opposants demande lui un moratoire de 5 ans sur le vote électronique jusqu'à ce qu'il soit aussi sécurisé que le vote papier.
Jérémy Lange depuis Genève pour France Culture. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu pour tous. La piste d'un impôt universel est écartée par Matignon, alors que l'idée avait été présentée hier matin par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Elle voulait que les plus modestes aussi payent, ne serait-ce qu'un euro symbolique. 43% des Français s'acquittent aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Quand les vacances scolaires commencent pour certains, elles se terminent pour d'autres. Pour la zone B, ce matin, les cours reprennent notamment dans les académies d'Aix-Marseille, Lille, Nancy, Metz,
à Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Tours ou encore Strasbourg. Et la mobilisation contre la réforme du lycée continue. Certains professeurs ont notamment décidé de mettre des 20 sur 20 à leurs élèves pour bloquer le processus d'orientation par les notes. Sonia Princet a ainsi rencontré des professeurs du prestigieux lycée Sophie Germain en plein cœur de Paris.
Dans ce lycée réputé de la capitale, les élèves vont être surpris d'avoir 20 sur 20 de moyenne sur leur bulletin. C'est pourtant ce qu'a décidé le collectif des professeurs en colère du lycée Sophie Germain. Ils continuent à donner des contrôles et à communiquer les vrais résultats dans la classe, mais ils refusent que les élèves soient sélectionnés par les notes pour le choix des spécialités.
Donc au moment du conseil de classe, évidemment, cela va un petit peu gripper le système, parce que en face de nous, nous avons des directions, nous avons le rectorat, nous avons un ministère qui, on le voit très bien à leur réaction depuis quelques jours, ont vraiment besoin d'avoir une hiérarchie des élèves par la note, en fonction de ceux qui ont au-dessus de 12-14, de ceux qui sont entre 12 et 8, de ceux qui sont en dessous de 8. Et en fait, avec cette action-là, on bloque leur organisation administrative.
Les parents ne sont pas forcément convaincus par ce mode d'action. En revanche, beaucoup d'élèves soutiennent les professeurs qui s'opposent à la réforme du lycée.
Je trouve que les profs, ils ont trouvé un moyen qui est peut-être pas le meilleur moyen, mais qui est un moyen qu'ils n'ont pas essayé, donc peut-être que ça va marcher. L'éducation française tient beaucoup aux notes, effectivement, même si c'est malheureux. Et du coup, jouer sur les notes, ça peut peut-être marcher. Ça peut faire réagir dans la mesure où si tous les élèves ont 20, il y a un moment où ils vont être obligés de faire quelque chose. Et je sais qu'il y a plein de profs qui vont laisser leur 20.
Selon un vote organisé dans ce lycée, 91% des professeurs se sont prononcés contre la réforme qui doit s'appliquer à la rentrée.
Au moins 1400 hectares de végétation ont brûlé depuis samedi en Corse. Au total, l'île a connu 48 départs de feu en 24 heures. Les pompiers espéraient cette nuit que le vent baisse d'intensité pour éviter la propagation de ces incendies avant le retour des secours ce matin. Et la semaine commence comme ce dimanche, sèche et ensoleillée en Corse également. Comptez 6 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, Nantes et Lyon, 8 degrés à Paris ce matin, 13 à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture et c'est l'heure du Journal des idées avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Coq-Réal.
Jacques, des études scientifiques ont avancé l'hypothèse que dans le cadre de l'évolution, oui, la mémoire se serait développée comme un outil de projection dans l'avenir.
Oui, et comme une capacité d'anticipation nourrie par l'expérience et les connaissances acquises, d'aide à la décision et de protection contre les dangers, soit d'insertion dans le monde, voire de transformation du monde. Philosophie Magazine consacre un dossier à l'étrange logique de la mémoire. Philippe Nassif évoque l'émergence de cette idée dans l'histoire de la philosophie. De Platon à Kant, le temps est appréhendé à la fois comme extérieur à l'homme et comme une succession infinie de maintenant. Chez Kant, notamment, l'espace et le temps sont des coordonnées abstraites de notre perception. Mais pour Heidegger, dans Être et temps, le propre de l'être humain est d'avoir intégré la dimension temporelle, la finitude, comme une dimension constitutive. Jeté dans le monde, il lui incombe de se projeter pour accomplir sa condition humaine. Sa nature ontologique se réalise précisément dans cette opération qui fait de l'avoir été la condition de la présence au monde dans l'horizon d'une anticipation permanente. L'être été naît de l'avenir, écrit-il dans une formule lapidaire. Loin d'être un pas encore, l'avenir est la décision à partir de laquelle l'être humain advient à lui-même et à sa mémoire d'être, résume Jacques Nassif, qui relève une résonance étrange avec la pensée juive. Le dieu du Talmud se conjugue au futur. « Je serai qui je serai », répond-il à Moïse lorsque ce dernier lui demande qui il est. Et à propos du Shabbat, il cite Marc-Alain Waknin dans les 10 commandements. « Souviens-toi du Shabbat » en vient à signifier « Souviens-toi de ton futur ». Aujourd'hui, les neurosciences confirment cette intrication du passé et de l'avenir dans le présent vécu. Larry Squire reprend la distinction qui s'est imposée dans le champ scientifique entre mémoire déclarative ou consciente, celle qui nous permet d'évoquer les événements passés et ce que nous avons appris, et mémoire non déclarative qui désigne une forme de mémorisation reposant sur l'expérience, par exemple nouer ses lacets ou faire du vélo, et qui ne repose pas sur des contenus sémantiques. C'est celle qui nous enseigne à éviter le danger, donc la mémoire déclarative, par anticipation de situations engrammées au fil du temps. Le psychiatre évoque les nombreux réseaux neuronaux impliqués dans le souvenir, notamment spatio-visuels, olfactifs, auditifs, et qui renforcent certaines connexions synaptiques en modifiant tout au long de l'existence l'architecture du cerveau. Mais la distinction la plus efficiente concerne la mémoire déclarative, celle des souvenirs, donc, et des connaissances et non des apprentissages. La mémoire des souvenirs est dite épisodique, celle des connaissances sémantiques. Dans un ouvrage collectif publié aux éditions Le Pommier sous le titre « La mémoire au futur », Francis Eustache montre que notre capacité à anticiper et décider en situation inédite se nourrit de ces deux formes de mémoire, mais aussi à des mécanismes de contrôle que l'on nomme fonctions exécutives. Et c'est la dimension épisodique qui est essentielle, car elle inclut la notion de référence à soi, comme on le voit dans les troubles de l'amnésie et la perte d'identité. Le directeur de l'unité de recherche neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l'université de Caen-Normandie ajoute une autre forme de mémoire, le réseau du mode par défaut. Celui-ci est activé lorsque nous ne sommes pas en prise directe avec notre environnement extérieur et que nous nous tournons vers nos pensées internes. Il permet de consulter notre mémoire autobiographique, d'élaborer des scénarios plus ou moins plausibles et requiert une relation empathique avec autrui, ce qu'on appelle aussi la théorie de l'esprit, soit la capacité à lire et à comprendre les intentions d'autrui. Ce réseau dit du mode par défaut, défaut de réalité objective, quand on n'est pas en situation sociale mais tourné vers soi-même, est également impliqué dans la créativité artistique ou face à des choix stratégiques qui engagent de nouvelles hypothèses. Aujourd'hui, s'inquiète Francis Eustache, ce réseau est de plus en plus malmené, notamment chez les enfants et les adolescents, du fait de l'omniprésence des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de mémoires externes qui tendent à le supplanter. La nostalgie est une tonalité affective qui fait appel à cette interaction dynamique entre réseaux neuronaux de la mémoire. Dans la revue Le Cercle Psy, Philippe Lambert évoque les vertus insoupçonnées de ce sentiment que Léo Ferré appelait une tristesse agréable. Pour la psychologue clinicienne Edwige Dehon, il s'agit d'une émotion complexe, autoréférente et sociale, à la fois douce parce qu'elle renvoie à de bons moments et amère parce que ceux-ci ne seront plus. Outre sa fonction créative et sa nature empathique, elle renforcerait la cohérence et l'identité du moi en maintenant le souvenir de moments qui ont eu du sens. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les manifestations en Algérie contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, la candidature de trop.
Eh ben, on va voir ça. En tout cas, c'était encore plusieurs centaines de personnes qui manifestaient hier à Alger, effectivement, à 2 mois de l'élection présidentielle, contestation inédite pour ce pays qu'on a dit épargné par les printemps arabes, mais peut-être pas par une certaine sclérose ou dinosaurisation, si vous me permettez l'expression, de la vie politique. Et on voit ça avec vous, Kader Abderrahim. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE. Votre dernier livre, c'est La géopolitique du Maroc aux éditions Bibliomonde. Alors, pour l'Algérie, ces manifestations, elles ont eu lieu à Alger, dans plusieurs villes, également en France, place de la République. Hier, elles sont quotidiennes depuis 3 jours, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale. Alors, beaucoup ont dit que c'était un mouvement inédit. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Et également un mouvement qu'on aurait peut-être pu dire inattendu, non ?
Oui, c'est vrai, inattendu, tellement on croyait que ce pays était endormi et que la léthargie avait gagné aussi les esprits, et on voit que il n'en est rien et qu'aujourd'hui les Algériens se mobilisent parce qu'ils ont un sentiment d'humiliation collective qui leur est insupportable. D'imaginer que leur président, qui est un homme diminué, malade, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus depuis 2014, puisse à nouveau remplir pour un 5e mandat, ce qui est totalement surréaliste. On est dans une situation kafkaïenne où le pays est à la fois dans une impasse institutionnelle et dans une crise sociale. Et lorsqu'on voit les jeunes qui se mobilisent, on voit que c'est surtout ceux-là qui sont concernés. Aujourd'hui, quand même, juste un chiffre, un quart de la population n'a connu que Bouteflika. et vous dire, c'est la question de la démographie. Pour la jeunesse, c'est un enjeu majeur, puisque ce sont ceux-là qui sont concernés au premier plan par une éventuelle perspective d'avenir collective ou pas dans un pays qui est aujourd'hui entré dans une crise très grave.
Les plus de 40% de la population qui a moins de 25 ans, effectivement, pour ce président qui, lui, est âgé de 81 ans. Alors, justement, vous avez parlé de cette conjonction entre sentiment d'humiliation collective et puis exaspération sociale. Il y a ce nom de mouvement qui revient beaucoup dans les manifestations. On en avait parlé la dernière fois en octobre, c'est Muwatana. On le présente un peu comme un mouvement d'intellectuels. Est-ce que c'est vrai et comment ça se fait qu'il se soit manifesté tout subitement dernièrement?
Parce qu'on a beaucoup de mal à s'organiser, donc c'est pas parce que on les découvre aujourd'hui qu'ils n'existaient pas. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'ONG, d'associations qui tentent de faire un travail à la fois sur la citoyenneté et en même temps sur la prise de conscience que la mobilisation collective est toujours la meilleure ressource pour lutter contre les dérives de ce régime. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces 5 dernières années. Malheureusement, elles ne sont pas visibles parce que le régime empêche toute expression démocratique, toute expression libre qui sortirait du cadre qu'il a lui-même fixé. Et je crois que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans les mobilisations qu'on a vues ces dernières semaines dans tout le pays. C'est important parce que j'ai découvert aussi à cette occasion que même le Sahara, une ville comme Ouargla par exemple, a connu des manifestations importantes, alors que tout le sud du pays est traditionnellement plutôt acquis au parti du FLN et au régime en place.
Alors on a donc ce mouvement Muwatana qui est donc un mouvement, on pourrait dire, de militantisme, les réseaux sociaux et puis également la jeunesse, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut parler d'une jonction, disons, entre une partie de l'élite, une partie des revendications plus populaires?
C'est beaucoup trop tôt pour dire s'il va y avoir effectivement des convergences. C'est beaucoup trop tôt pour dire si cette mobilisation va se poursuivre. Je pense que le régime va réagir. Je crois aussi qu'il y a un élément qui est important, c'est que, en réalité, de mon point de vue, la candidature de Bouteflika, c'est aussi un outil, un moyen de pression, parce que, en réalité, la plus grande bataille, elle se déroule à l'aide interne au Sérail. Visiblement, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur un candidat de compromis pour la succession de Bouteflika. Donc, c'est le clan qui est aujourd'hui aux affaires, qui est le plus fort, qui a imposé cette cinquième candidature, ce cinquième mandat. Donc, s'il y a une expression extérieure et que la population continue de se mobiliser, ça peut éventuellement changer la donne et peut-être même le rapport de force. Mais à ce stade, je crois qu'il faut rester prudent et qu'il est beaucoup trop tôt pour voir comment les choses vont évoluer.
Quand bien même, il y a une certaine urgence parce qu'on est dans cette période, donc à 2 mois de l'élection, et c'est surtout dimanche prochain, je crois, que la commission électorale doit valider les candidatures. Donc il y a quand même une semaine pour répondre ou non aux revendications des manifestants.
Oui, c'est vrai. Donc je crois que les questions qui sont aujourd'hui posées sont de nature éventuellement peut-être à faire réagir ceux qui décident et peut-être même entendre ce qui se dit dans la rue à défaut d'avoir été entendu depuis des années par d'autres modes ou d'autres moyens d'expression. Quand on voit par exemple que la télévision d'État ou les radios d'État ne relaient absolument pas l'information, oui, c'est une situation là aussi surréaliste, alors que avec les réseaux sociaux, les Algériens ont bien d'autres moyens de s'informer et de savoir quelle est la réalité. Donc ce genre de comportement en dit long sur l'état d'esprit de ceux qui dirigent aujourd'hui et qui n'ont pas compris quels étaient les nouveaux défis de l'Algérie et du monde dans lequel nous vivons.
Et justement, vous parliez, disons, peut-être des hésitations ou des questionnements internes au FLN au pouvoir. Là, c'est vrai qu'on a vu, comment il s'appelle, Mohamed Bouchareb, je crois, le secrétaire général du FLN, qui a eu des mots très durs contre les manifestants. En même temps, le fait que les manifestations puissent se produire à Alger, alors que c'était strictement interdit depuis 2001, est-ce que ça indique pas une certaine ouverture, une certaine tolérance? Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, ça veut dire que les Algériens n'ont pas demandé, évidemment, et qu'ils se sont emparés eux-mêmes de ce qu'ils considèrent être un droit. Donc, que les manifestations n'aient pas été autorisées, c'est une fête. Elles sont d'ailleurs interdites depuis 2001. Mais je crois que les Algériens n'ont jamais attendu ce genre de choses. Ils se sont toujours emparés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé depuis 1988, et déjà les émeutes de la jeunesse en octobre 88, qui avaient fait plusieurs milliers de morts. Mais on était déjà dans un ras-le-bol général d'une partie de la population qui ne supportait plus le FLN tel qu'il existait, ce qui avait conduit à des réformes importantes et à une véritable parenthèse démocratique 1989-1991 avec une nouvelle constitution qui ouvrait la voie au multipartisme. Donc c'est la seule période pendant laquelle l'Algérie a connu une respiration démocratique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à des comportements et à des mobilisations collectives qui soient à la fois pacifiques, mais qui permettent aussi aux Algériens d'être entendus dans leur expression, ce qui évidemment n'est plus le cas, parce que quand on fait des analyses électorales des scrutins successifs qui se sont déroulés depuis 20 ans, on voit l'érosion de la participation. Et si vraiment Bouteflika est candidat à un cinquième mandat, je crois que la participation sera extrêmement faible, ce qui posera la question de la légitimité d'un homme qui serait très très mal élu.
Et en tout cas, c'est vrai que la plupart des revendications veulent d'abord le départ de Abdelaziz Bouteflika, la non-présentation à cette candidature. Certains même partis d'opposition parlent de changer le système. Vous avez souligné cette date de 88 avec une évolution significative, le multipartisme après. Qu'est-ce qui pourrait advenir et quelle sortie de crise possible à partir de là s'il n'y a pas de solution de rechange pour Abdelaziz Bouteflika pour le moment du côté du FLN?
Là aussi, c'est très compliqué parce qu'on voit une opposition assez divisée qui n'est pas parvenue à s'entendre la semaine dernière sur une candidature unique. On voit également l'implosion, la fragmentation du paysage social. Donc, en réalité, c'est que ce régime a aussi pris le soin de casser tout ce qui constituait des médiateurs entre la société et l'État, comme ça se fait dans tous les pays. Et donc aujourd'hui, l'État se retrouve en permanence confronté directement à la population. Alors on pourrait se satisfaire de ce mode d'expression directe, mais dans un pays comme l'Algérie, qui n'a jamais connu rien d'autre quasiment, à part ce que je soulignais il y a un instant, la parenthèse démocratique 89-91, donc dans un pays qui n'a jamais rien connu d'autre que l'autoritarisme, c'est très compliqué d'imaginer quelle sortie de crise il pourrait y avoir, dans la mesure où ni les partis politiques ni les syndicats sont aujourd'hui en capacité de relayer ou de réguler ce mouvement. Donc je pense que ce que vous signaliez tout à l'heure, Mouattana ou des associations comme Nebné ou même Iptika peuvent éventuellement jouer un rôle pour relayer les revendications et les porter dans un autre domaine qui sont aujourd'hui malheureusement les seuls modes d'expression, qui sont les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
Et sur les partis politiques, vous avez dit ils n'ont pas réussi à s'entendre effectivement à présenter un candidat unique. On voit que certains là qui sont alliés du FLN ont quand même, je le disais, des mots assez durs. Ils disent c'est le MSP qui est au Parlement qui disait c'est une décision insensée. Il faut appeler le FLN à être rationnel. Est-ce qu'il n'est pas fragilisé aujourd'hui ce FLN et puis la grande alliance qu'il a réussi à constituer?
Oui, bien sûr, mais la question pour le FLN n'est pas celle de savoir s'il est représentatif ou non, il s'en moque, puisque de toute manière il l'est aux affaires, c'est le parti État aujourd'hui, avec son corollaire qui est le RND du Premier ministre Yahya. Donc l'enjeu pour le FLN, c'est de tenter, une fois l'idée d'un cinquième mandat acquise, puis la réélection validée, continuer à jouer sur un registre sur lequel il a toujours joué, c'est celui d'une redistribution de la rente pétrogazière. Sauf qu'aujourd'hui, cette rente s'est effondrée en raison de la baisse du prix du pétrole, et il y a, selon les experts, entre 40 et 60% de recettes en moins dans les caisses de l'État, ce qui là aussi provoque beaucoup d'inquiétude, parce que s'il n'y a pas d'argent à redistribuer, eh bien évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué d'acheter la paix sociale et ce sera encore beaucoup plus difficile de continuer à avoir des clientèles politiques pour maintenir un tant soit peu la stabilité, au moins en apparence.
Bon, et toute dernière chose, mettons que le scrutin ait lieu normalement, il y a aussi certains candidats qui ont commencé à se montrer. Il y a eu des manifestations parce que l'un a été empêché d'avoir ses soutiens à Khenchla, c'est dans l'est du pays, mercredi dernier, Rachid Nekaz, qui s'était déjà présenté à la candidature française. Est-ce qu'il y a des possibilités de renouveau dans le panel de candidats actuels?
Aujourd'hui, dans le paysage actuel tel que nous venons de le décrire, la seule candidature qui apparaît crédible aux yeux du régime et qui pourrait un tant soit peu l'inquiéter, c'est celle du général Guédéry, qui est un général à la retraite, qui est un homme qui a beaucoup de bagou, qui a une excellente formation intellectuelle, qu'il y a des relais dans l'appareil d'État qui pourraient éventuellement constituer une alternative. Ouais. Mais il a été empêché à chaque fois de tenir ses meetings. Il est probable qu'il ne parvienne pas parce qu'il y aura des pressions à réunir les signatures nécessaires, le nombre de signatures nécessaires pour valider son dossier de candidature. Et donc, à partir de là, sa candidature n'aura été qu'un feu de paille. Donc, je pense que le régime va utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition, et avec l'administration, il en a de nombreux, pour éliminer ce qui constituerait éventuellement un risque ou un danger.
Oui, en tout cas, Guediri, premier à présenter sa candidature en décembre. On suivra ça avec la validation ou non des candidatures ce week-end. Merci beaucoup, Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po, directeur de recherche à l'IPSE. Merci.
Merci.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
France Culture présente Le Misanthrope de Molière, mise en scène par Alain Françon. Dans l'antichambre de la société de cour, Alceste tente tout pour obtenir de Célimène une parole de sincérité. Mais que peut-on dire et que peut-on entendre au cœur de l'hiver des rapports humains où chacun agit en vrai loup? Pour sa première création d'une œuvre de Molière, Alain Françon rend à cette comédie la radicalité de ses questionnements, où la subversion et l'honnêteté ne sont pas forcément où on les croit. Le Misanthrope du 27 février au 10 mars au Théâtre du Nord à Lille. Un partenariat France Culture.
Et à 6h59 sur France Culture, c'est l'heure des matins philanthropes avec Florian Delorme. Bonjour.
Bonjour, cher Xavier.
Et les matins qui, aujourd'hui,
parle de la haine. Oui. Ah bah voilà, on a senti ces derniers mois, Xavier, une montée en puissance des violences dans la société à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, mais aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, avec des attaques tout azimut. Une montée en puissance confirmée par une récente étude de l'Institut Ipsos pour le nouveau magazine littéraire, révélant que 91% des Français estiment qu'il y a plus de violence et de tension dans la société qu'auparavant. On va s'intéresser justement à cette fabrique de la violence dans nos sociétés contemporaines. On recevra en première partie Brice Teinturier, donc directeur général délégué de l'Ipsos, et puis également Aurélie Marciro, qui est rédactrice en chef adjointe du nouveau magazine littéraire avec qui on est en partenariat ce matin. Et puis en deuxième partie, nous rejoindra Marc Weissmann. Mais pour l'heure, il est 7h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent.